Donc je vais commencer cette deuxième journée par une présentation sur les observations au XXe siècle. Donc on a eu des reconstitutions d'observations hier avec la paléoclimatologie. Là je vais vous parler essentiellement du XXe siècle et des conclusions du GIEC sur ces observations au XXe siècle. Merci. Alors très brièvement, je commence par une conclusion du GIEC, le GIEC 2007, donc le dernier, qui est la suivante. Donc le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident, dans les observations, de l'accroissement des températures moyennes mondiales de l'atmosphère et de l'océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, et de l'élévation du niveau moyen mondial de la mer. Donc c'est une conclusion du quatrième rapport du GIEC 2007, qui est assez claire. Alors, juste un transparent pour vous dire ce que c'est que le GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, l'acronyme français, c'est GIEC, ou c'est IPCC en anglais. Donc, c'est un groupe qui a été mis en place en 1988 par l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie mondiale, et donc par le programme des Nations Unies, et il est donc sous la tutelle des Nations Unies. Alors, le premier objectif du GIEC, c'est d'évaluer l'information scientifique et socio-économique sur le changement climatique, d'évaluer ses impacts et les différentes options pour l'atténuer et s'y adapter. Donc il y a la partie scientifique ici, mais il y a également la partie société et économique qui est prise en compte. Le deuxième objectif est de produire sur demande des avis scientifiques, techniques et socio-économiques à la conférence des parties, à la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc là, il y a un aspect politique derrière. Et donc, depuis sa création, le GIEC a produit trois séries de trois rapports. Alors, le premier en 89, deuxième 95, troisième 2001. Et donc, ces trois rapports correspondent à trois groupes. Donc, c'est une organisation qui est assez complexe, en fait. Donc, il correspond à trois groupes. Le premier groupe, c'est la base scientifique du changement climatique. C'est le groupe 1. Donc, ça, c'est les scientifiques, les chercheurs qui planchent là-dessus. Le deuxième, c'est sur les impacts et l'adaptation de la vulnérabilité, le groupe 2. Et le troisième, c'est l'atténuation, donc c'est la proposition de mesures pour atténuer l'influence de l'homme sur le changement climatique. Et donc en 2007, il y a le quatrième rapport qui est sorti. Donc le premier volet du groupe 1, de rapport scientifique, est sorti à Paris. Alors vous avez dû en entendre parler en février, c'était le 2 février 2007, la conférence de Paris. Et dans ce volet, dans ce premier rapport, en fait, on contribuait à peu près 600 scientifiques, et je vais faire la somme des deux, en fait 1220 scientifiques en tant que contributeurs et réviseurs experts. Alors, réviseurs experts, c'est en fait une analyse qui est faite par, auto-évaluation qui est faite par les chercheurs. Donc, il y a des contributeurs qui écrivent quelque chose, et ensuite, il y a des examinateurs qui disent ce qui est écrit est faux, ce qui est écrit est vrai, etc. Donc, une expertise. Et donc, l'ensemble du quatrième rapport sera publié donc courant 2007. Donc, le rapport du groupe 2 sur la vulnérabilité a été sorti au mois d'avril à Amsterdam, celui du groupe 3 en mai à Bangkok, et le final sera à New York le 17 novembre. Et donc, ce rapport est disponible en ligne, en anglais, surtout son rapport, et en français maintenant, sous ce site-là, www.effetdeserre.gouv.fr. Effet de serre avec des petits tirets. En français et en anglais sous ipcc.ch. Donc c'est le résumé de ce rapport qui est en français, résumé de ce rapport pour les décideurs du quatrième groupe. Donc je résiste pas au plaisir de rajouter ceci sur ce transparent, c'est donc le GIEC partage le prix Nobel de la paix avec Al Gore, comme vous devez le savoir. Donc je reviens sur cette première conclusion du GIEC. Alors cette première conclusion, en fait, il a fallu environ un mois pour arriver à cette phrase entre les différents experts, parce que cette phrase elle a des mots très forts qui sont sans équivoque, qui sont évidents. Donc c'est tout un système de négociation qui se fait entre les scientifiques, les politiques, les sociologues pour aboutir à une seule phrase. Et donc le GIEC rajoute, après cette première phase sur le constat, l'observation, il rajoute en fait une deuxième conclusion qui est celle-là. L'essentiel de l'accroissement observé sur la température moyenne atmosphérique globale depuis le milieu du XXe siècle est très probablement due à l'augmentation observée des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc là, en plus du constat, il y a une première quantification, c'est l'essentiel. Une notion sur les incertitudes, c'est très probable, on ne pourra jamais dire que c'est probable, c'est de la science. Et une origine, l'origine humaine. Donc il y a une attribution. Et il va encore plus loin, il dit qu'on peut maintenant discerner des influences humaines dans d'autres aspects du climat, etc., etc., etc. Alors ce que je vais vous montrer, en fait, c'est un peu la démarche scientifique qui a abouti à cette conclusion qui est très forte. Donc c'est une démarche scientifique qui est classique, c'est hypothèse, c'est observation, hypothèse, on teste, on conclut, comme n'importe quelle démarche scientifique. Alors la première dans cette phrase, c'est le constat, la mesure, l'observation. Le réchauffement climatique, etc., est évident dans les observations. Donc c'est un constat. La deuxième, c'est la détection, le niveau d'incertitude. Il est maintenant évident et sans équivoque. Donc on constate quelque chose et on détecte quelque chose d'anormal. Donc sur la deuxième phrase, il y a deux parties. Donc en rouge, la compréhension physique due à l'augmentation observée des gaz à effet de serre. Donc on relie l'accroissement à quelque chose de physique, les gaz à effet de serre. Et en vert ici, c'est l'attribution, l'origine humaine. Et donc tout cela aboutit en fait à une phrase que je ne vais pas présenter, ce sera Pascal Lecluse qui le fera et Samuel Soumo, sur les projections climatiques, qu'est-ce qui va se passer sur le XXIe siècle. Donc le réchauffement global associé à un doublement de CO2 est probablement entre plus 2 degrés et plus 4,5, avec 3 degrés comme la valeur la plus probable. Et la sensibilité du système climatique est très probablement supérieure à 1,5 degré. Donc ça, c'est les projections, donc ça, on vous en parlera dans l'après-midi. Donc j'ai essayé, alors peut-être de manière assez maladroite, mais bon, c'est la première fois que je fais comme ça, donc vous allez me dire à la suite. J'ai essayé en fait de résumer cette démarche scientifique sur ce transparent-là, qui va revenir plusieurs fois et que je vais remplir au fur et à mesure. Donc le premier, c'est les observations, le constat. Le deuxième, c'est la physique du climat. Alors là, il est déjà un petit peu rempli par l'exposé que je vous ai fait hier. Le troisième, c'est pouvons-nous détecter un changement climatique? Et le quatrième, pouvons-nous déterminer son origine? Et donc à chaque fois, je vais essayer de remplir ces cases pour vous montrer la démarche scientifique qui a été suivie par le GIEC et par donc l'ensemble des chercheurs. Alors que nous apprennent les observations? Je reviens, alors que c'est une courbe que vous avez déjà vue hier dans l'exposé de Frédéric sur les paléoclimats, hier soir également pendant la conférence. Donc c'est une courbe qui montre, tirée à partir des carottes de glace de Vostok, donc c'est une publication de Nature en 1999, qui montre en fait que sur les derniers 500 000 années, il y a une très bonne corrélation entre donc la température de surface estimée à partir de ces carottes de glace, température de surface globale, la concentration de CO2, la concentration de méthane. Alors ici, vous ne voyez pas la petite différence de 600 à 800 ans dont Frédéric a parlé hier, le gaz carbonique suivant l'augmentation de la température. Donc vous voyez qu'elles sont en phase. En fait, il y a ce petit déphasage. Et c'est très important justement de comprendre ce petit déphasage parce que on pense que dans le passé, en fait, le gaz carbonique a suivi l'augmentation de la température, donc est une conséquence de l'augmentation de la température et s'explique bien par la mise en place tout ce qui est végétation, etc., de la mise en place de la biosphère, donc qui va rejeter du gaz carbonique. Et donc ce gaz carbonique va être un peu plus fort après le maximum de température, mais il contribue à maintenir la période dans un état non glaciaire. Alors ce qui se passe aujourd'hui est assez nouveau dans la mesure où l'augmentation du gaz carbonique précède ou est en phase avec le réchauffement de la température. Ici, pour revenir sur le XXe siècle, donc on a la concentration du gaz carbonique en 2001, qui était en fait la plus grande observée ou estimée sur les derniers demi-millions d'années. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, la concentration de gaz carbonique varie de 80 à 100 ppm sur 25 000 ans, période glaciaire, interglaciaire, et une variation de 4 à 6 degrés sur 25 000 ans, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et donc aujourd'hui, en 2005, le gaz carbonique est à 380, un petit peu plus maintenant en 2007. Donc c'est une variation à peu près de 100 ppm en un siècle et non pas en 25 000 ans. Donc là, il y a un ordre de grandeur très important, c'est la rapidité de l'augmentation du gaz carbonique. Et la température, elle, par contre, elle a un petit peu plus de mal à augmenter, à cette échelle-là. Donc elle commence à croître, mais elle croît plus lentement que le gaz carbonique, bien sûr. Alors je vais faire un zoom sur ce 20e siècle. Donc, voilà ce qu'on a sur le 20e siècle, sur le dernier millénaire. Donc c'est la concentration de 4 gaz à effet de serre sur le dernier millénaire. Donc l'an 1000 est ici et l'an 2000 est là. Et on voit que pour l'ensemble des gaz à effet de serre, on a des concentrations qui sont relativement stables jusque vers le milieu, jusqu'on va dire vers le 19e siècle. Et ensuite une augmentation rapide de l'ensemble des gaz à effet de serre. Et donc ces gaz à effet de serre peuvent être reliés en fait à différentes activités humaines. Donc le plus célèbre, c'est le gaz carbonique qui augmente de 1% par an entre 1860 et 1980, de 3% par an depuis 1990. Donc, dans ce petit tableau, que nous apprennent les observations, c'est que les concentrations de gaz à effet de serre aujourd'hui sont les plus fortes depuis 700 000 ans. C'est l'état de l'art, hein, c'est avec toutes les incertitudes que l'on a, mais c'est ce qu'on observe. Donc l'accélération sur les tendances sur les gaz à effet de serre, alors c'est l'acronyme anglais, donc c'est le même, gaz à effet de serre depuis les années 1970-1980, et donc il y a correspondance entre ces gaz à effet de serre et le réchauffement. Alors maintenant on va zoomer de plus en plus sur le 20e siècle. Donc voilà la température, ici sur, c'est encore le dernier millénaire, pardon, le dernier millénaire, la température, estimé à partir d'une période de référence qu'on considère ici, là, sur cette fin du milieu du XXe siècle, les 1960-1990. On dit que le climat normal, il faut bien une référence, hein, le climat normal, c'est la moyenne entre 1960 et 1990. Donc, par rapport à 1960-1990, le millénaire a été plus froid. Donc, en noir ici, vous avez la température reconstituée, avec une moyenne sur 10 ans, donc le millénaire a été plus froid, et puis on a une augmentation très rapide sur le 20e siècle ici. Le grisé ici représente l'incertitude de la mesure, donc on voit que plus on remonte dans le temps, plus cette incertitude est grande. Et ce grisé, en fait, s'explique par les reconstitutions qui sont faites à partir de coraux, de sédiments lacustres, d'anneaux d'arbres, de registres pour la fin de la période. Donc plus on se rapproche du 20e siècle, moins l'incertitude est grande. Et donc en rouge ici, vous avez les relevés thermométriques à partir, donc c'est la période instrumentale. Et donc on voit que cette période instrumentale, ces relevés par les thermomètres, suivent bien la reconstitution qui est faite à partir des différents proxys climatiques, reconstitution indirecte. Donc 1998 a été l'année la plus chaude du millénaire, d'après cette étude. Le petit âge glaciaire est ici au milieu. Alors, c'est la température globale, donc ça correspond environ à moins 0,5 degrés. Et donc, si maintenant je fais un zoom sur le dernier siècle, donc on voit un réchauffement important, un petit maximum ici vers les années 30-40, et puis un réchauffement très important ici à partir de 1980. Et je zoome encore sur la dernière partie. Et là, on voit qu'en fait, l'année 1998, qui était considérée comme l'année la plus chaude, en fait, a été dépassée par 2005, qui est maintenant considérée comme l'année la plus chaude sur la planète. Donc, c'est ce que disait, je ne sais plus qui hier, les 10 ou 11 dernières années les plus chaudes ont été enregistrées sur la dernière décennie, ou quasiment. Alors, voilà le même type d'analyse, donc c'est l'anomalie de température globale sur la planète sur cette période de référence, donc tirée du dernier rapport du GIEC 2004. Et donc chaque barre ici représente la tendance. Et donc on voit que plus on va vers la fin du XXe siècle, plus la pente se raidit. Et donc on a une augmentation de plus en plus rapide de la température. Et donc elle est de l'ordre par décade de 0,18 sur cette dernière période, sur les 25 dernières années. Donc 0,18 avec cette incertitude ici qui est faible. Je reviendrai sur l'impact de ce 0,18 à l'échelle locale. Donc ça, c'est la température globale. Maintenant, il faut quand même regarder ce qui se passe à l'échelle un petit peu plus régionale. Donc sur ce premier graphe, vous avez la tendance sur le siècle dernier de la température. Donc on voit que la température augmente de façon relativement uniforme sur la planète, sauf à certains endroits où ça se refroidit, ici en mer du Labrador, sud mer du Labrador, et ici sur la Floride. Mais on voit un réchauffement global généralisé qui est très fort, qui est beaucoup plus fort sur les continents que sur les océans, en particulier sur les hautes latitudes ici. Donc avec des valeurs sur les hautes latitudes de l'ordre de 1 degré par siècle, ici, et sur l'océan de l'ordre de 0,2 degré par siècle. Donc ici, c'est la même carte, mais sur la dernière décennie. Sur les trois dernières décennies. Et donc on voit un réchauffement important, mais le code de couleur est exactement le... Non, n'est pas exactement le même. Le code de couleur ici représente l'augmentation par 10 ans. Donc on voit par exemple sur l'hémisphère nord ici, qu'on a une augmentation de 0,25 degrés par 10 ans. Alors qu'ici, on était plutôt en 0,2, 0,3 par siècle. Donc on a une accélération extrêmement importante qui se passe depuis les années 80. Donc on voit ici cette accélération à l'échelle globale. Alors, cette courbe, en fait, masque... Donc c'est un réchauffement, mais elle masque des contrastes régionaux. On voit par exemple ce petit refroidissement ici en mer du Labrador. Donc le réchauffement climatique global n'est pas du tout incompatible avec un refroidissement local. Ce refroidissement local, il s'explique très très bien. Il s'explique par le fait que dans un climat plus chaud, on a ce que je vous ai raconté hier, on a une dépression d'Islande qui est située ici, qui est plus forte. Et donc des vents qui sont plus forts. Donc si les vents sont plus forts ici, ils vont davantage évaporer de l'eau. De l'océanique ici, donc ils vont refroidir la surface de l'océan. Donc c'est, en fait, ce petit refroidissement est une conséquence du réchauffement climatique, on peut dire, global. Une conséquence du changement de la dynamique atmosphérique. Donc c'est pas du tout incompatible. On peut trouver quelques points sur la planète où la température se refroidit. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité physique. Donc c'est ici la même carte sur une tendance sur 1955-2005. Donc on retrouve ce que je vous ai présenté précédemment. Donc une augmentation des températures ici sur le nord, sur les latitudes polaires. Et là ce qui est représenté, c'est la moyenne zonale en fonction des saisons. Alors la moyenne zonale, c'est qu'on prend un cercle de latitude, et on moyenne sur toutes les longitudes. Donc ça me donne une courbe ici comme ça qui fonctionne de la latitude. Donc pôle nord ici, pôle sud et l'équateur. Et donc chaque courbe ici représente une saison. Donc en bleu vous avez l'hiver, en vert le printemps, etc. Et donc on se rend compte en fait que les deux courbes dans l'hémisphère nord là qui sont où on note un réchauffement très important, le changement de température est ici. Donc si on est à droite du zéro, on a un réchauffement. Donc le réchauffement est très important ici aux latitudes nord, qu'on voit bien quand on fait la moyenne sur toutes les longitudes. Et on voit que ce réchauffement est particulièrement important au printemps et à l'automne. Donc en fait, le réchauffement se traduit en termes de saison par un raccourcissement des saisons intermédiaires. Donc on a un passage vers l'été qui est plus rapide et un passage vers l'hiver qui se fait un peu plus tard. Alors je vais juste revenir sur ce qui s'est passé cette année en termes de couverture de glace. Donc vous voyez ici que le réchauffement est important sur l'hémisphère nord. Et vous voyez ici une courbe qui représente l'extension de la glace depuis 1978, donc c'est le début de l'ère satellite, jusqu'à nos jours, ici, 2007 et ce point-là. Et donc c'est toujours pareil, notre moyenne, il faut bien une moyenne, hein, c'est le climat moyen, et dans ce cas c'est 78-2000, donc sur cette période-là. Donc on voit zéro c'est une condition normale, positif, davantage de glace, négatif, moins de glace. Donc on voit en fait une décroissance de l'extension de la glace dans l'hémisphère nord qui est extrêmement importante et qui tend à plonger ici sur la fin sur les 4 ou 5 dernières années. Alors j'ai fait un zoom ici sur les 3 dernières années. Donc 3 dernières années sont représentées ici. Et voilà le résultat de cet été ici et voilà le résultat de cet automne juste maintenant. Donc on voit que on a perdu par rapport au dernier record de minimum de glace, on a perdu un quart de la glace en une année, cet été. Un quart. Ce qui est absolument considérable. Donc ça, c'est juste l'étendue. La même chose se passe sur la hauteur de la glace. La hauteur de la glace diminue de façon extrêmement rapide. Donc plus la hauteur de la glace diminue rapidement, plus son extension va diminuer rapidement aussi, parce qu'il n'y a plus l'inertie du système climatique. Donc voilà ce que ça représente, comment, spatialement, comment cette perte s'est manifestée. Donc ici, vous avez le Groenland, l'Amérique du Nord et la Sibérie. Donc c'est une vue sur le pôle ici, le pôle Nord qui est là. Le rose ici représente la couverture de glace d'une année normale. J'ai pris l'année de 79, hein, qui est peut-être un peu plus que la normale. Donc on voit en été que l'océan Arctique est couvert de glace. Voilà l'état de l'océan Arctique en 2007. Donc il a perdu toute cette glace ici, dans cette région-là, lors du record. Donc ça, c'est un emballement du système climatique assez important et assez redouté, qui est en fait beaucoup plus important que estimé dans les modèles. Alors juste pour vous montrer une magnifique photo de l'Arctique, où en fait, ici vous avez le Canada, là, et le Groenland ici, et ce qu'ils appellent le passage du Nord-Ouest, donc entre toutes ces îles-là, et donc pour la première fois, le passage du Nord-Ouest était libre cette année, donc les bateaux auraient pu passer. Donc ici, entre ces îles, pour en fait donc passer du Pacifique par le détroit de Bering jusqu'à l'Atlantique. Donc sur cette photo satellite, on voit bien les icebergs ici, etc. Alors là, je voulais présenter le changement au niveau des températures. Au niveau des précipitations, on a un changement qui est beaucoup plus contrasté qu'en termes de température. Donc ici, je vais pas passer en revue toutes les zones. On a des endroits qui s'assèchent davantage et des endroits où il pleut davantage. Donc l'assèchement en particulier se fait sur l'Afrique et l'excès de précipitations se fait sur l'Europe du Nord et également sur le continent sud-américain. Et si l'on fait une moyenne globale de la température, des précipitations, on a une augmentation légère des précipitations. Elle n'est pas forcément significative à l'échelle globale de la planète. C'est très difficile d'estimer les précipitations. Mais cet accroissement est cohérent, en fait, avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique. Parce que si l'atmosphère est plus chaud, il contient davantage d'humidité. Et donc, s'il contient davantage d'humidité, c'est la relation de Clouzic-Aperon. S'il contient davantage d'humidité, il va précipiter davantage. Alors maintenant, on va un petit peu dans l'océan, on va regarder ce qui se passe en termes de niveau de la mer. Donc ici, c'est le changement du niveau de la mer depuis le début du XXe siècle jusqu'à notre époque ici, estimé par les marégraphes, ici en noir. Donc il y a différents marégraphes ici qui sont de différentes couleurs, et donc on estime la variation moyenne du niveau de la mer par cette courbe noire ici, qui correspond à peu près sur un siècle à environ 20 cm. 20 cm par siècle à l'échelle globale. Alors ici en rouge, se superpose la période satellitale, donc les satellites Topex Poséidon et Jason, qui ont été lancés en 1993, et qui permettent d'estimer le niveau de la mer avec une extrême précision, l'ordre du millimètre. Donc le satellite est capable, à l'échelle globale, de voir le niveau de la mer au millimètre près. Donc je fais un petit zoom ici sur cette période, donc qui est la période satellitale de Topex Poséidon. Et donc on voit que sur cette période, 1993-2006, on a un accroissement du niveau de la mer qui est de l'ordre de 30 cm par siècle. Donc c'est pareil, il y a une accélération du réchauffement du niveau de la mer. Alors pourquoi la mer monte ? Donc il y a plusieurs pourquoi le niveau de la mer monte. Donc il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la hausse du niveau de la mer. La première, c'est un excès de masse, c'est-à-dire que davantage d'eau arrive dans la mer. Donc si davantage d'eau arrive dans la mer, le système océan va monter de niveau. Donc ici sur ce graphe-là sont représentées les contributions de la fonte des différents glaciers au niveau de la mer en fonction des continents. Donc on est ici en 1960, 2007 est ici, et donc on voit que, alors l'échelle est inversée, donc ici c'est la contribution en millimètres de la fonte des glaciers. Donc la fonte des glaciers de Patagonie, en rouge ici, contribue à une hausse du niveau de la mer de 2 mm. La fonte des glaciers arctiques contribue à une hausse de la mer de 5 mm. Et donc on voit que l'ensemble des glaciers sur la planète contribue à une hausse du niveau de la mer, sauf ici deux zones, les Andes et l'Europe, où en fait la contribution est quasiment nulle. Alors c'est toujours pareil, ces courbes globales masquent des effets locaux. Si on prend les glaciers alpins, ici le glacier de l'Argentière, on a un tableau des années 1950 et puis une photo actuelle, où le glacier descendait quasiment jusqu'au village, aujourd'hui il s'arrête ici. Donc on voit un retrait des langues glaciaires au niveau des Alpes. Par contre, en Norvège, on voit une augmentation de la quantité de glace sur les glaciers. Alors tout ça s'explique très bien, l'augmentation du, de la quantité de glace sur les glaciers scandinaves s'explique par un changement de dynamique atmosphérique qui est également associé au changement climatique. Donc c'est le même système que je vous ai présenté précédemment. La dépression d'Islande est un peu plus creusée, les vents d'ouest sont plus forts, ils amènent davantage d'humidité sur la Norvège, il pleut davantage, il neige davantage en altitude, donc les glaciers s'accentuent. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre une hausse du glacier, une hausse du niveau de glace local et le changement climatique. On peut toujours trouver un point qui est à l'inverse de la tendance globale, il n'y a pas de souci. Alors ce graphe-là représente l'ensemble des contributions à la hausse du niveau de la mer. Donc ce que vous ai présenté ici, c'est les glaciers. Donc ici, c'est le taux de changement du niveau de la mer en millimètres par an. Donc les glaciers, avec deux estimations, 1961-2003, et sur la dernière période, la dernière décennie, 1993-2003. Donc en fait, la contribution la plus importante à la hausse du niveau de la mer, c'est pas les glaciers, mais c'est aussi surtout ce qu'on appelle l'expansion thermique de l'océan. C'est-à-dire qu'un liquide qui est plus chaud, il a un volume plus élevé. Donc l'océan se réchauffe, donc son volume augmente. Et donc ça, c'est à peu près 50% du 60%, je crois, oui 60% de la hausse du niveau de la mer. Donc les glaciers contribuent un petit peu, la fonte du Groenland également, la fonte de l'Antarctique aussi, et la somme donne à peu près sur donne 2 mm par an. Et on voit qu'en sur la dernière décennie, 1993-2003, on a une accentuation des tendances qui est beaucoup plus forte, avec donc 3 mm par an. L'incertitude étant donnée par la longueur de ce petit rectangle ici. Et donc sur cette dernière période, l'expansion thermique, donc le réchauffement de l'océan, l'augmentation du volume, contribue énormément à cette augmentation du niveau de la mer. Mais il y a également quelque chose qui apparaît sur la dernière période, c'est une accélération de la fonte du Groenland. Donc sur cette carte ici, vous avez le nombre de jours de fonte du Groenland en 2006. Donc on voit que en bleu, alors on voit pas du tout l'échelle ici, donc ça correspond à peu près 30-40 jours en bleu. Donc pendant 30 à 40 jours, la glace fond ici sur la partie sud du Groenland et un petit peu au nord ici. Et là, c'est la différence entre la fonte normale et cette année 2006. Donc tout ce qui est en rouge, c'est une fonte supplémentaire. Et là, on est en rouge, donc on a 10 à 20 jours. Donc on a multiplié par deux, en fait, le nombre de jours de fonte au niveau du Groenland. Alors j'essaye chaque fois de relier une analyse globale à une analyse qui est locale. En fait, le niveau de la mer n'augmente pas partout de la même manière, parce que l'océan est quelque chose de dynamique, donc c'est comme l'atmosphère. Donc vous avez ici la carte de hausse du niveau de la mer globale. Et on voit que le niveau de la mer, en rouge, augmente, en bleu, diminue. On voit que le niveau de la mer augmente beaucoup dans le Pacifique Ouest, beaucoup ici dans l'Atlantique, au sud du Groenland. Et par contre, il est relativement stable sur les autres bassins. Et ça s'explique de nouveau très bien par la dynamique océanique. Donc le réchauffement global n'est pas quelque chose de statique. Il interagit avec toutes les composantes et la dynamique océanique. Donc je remplis petit à petit mon petit cadre ici. Donc, que nous apprennent les observations? Donc, un réchauffement massif depuis 100 ans, une très forte accélération depuis les années 70-80, donc les 10 années les plus chaudes, comme on vous a dit, après 1980, un très fort réchauffement aux hautes latitudes, une hausse globale des précipitations qui n'est pas forcément significative, mais qui est cohérente avec la physique, et une hausse du niveau de la mer. Et donc, tout ceci est associé, en fait, à de la physique, donc l'inertie du système océanique, des rétroactions très importantes entre la neige et la glace, l'altitude polaire, ce qui permet d'expliquer justement cet emballement au niveau de l'altitude, une intensification du cycle hydrologique quand l'atmosphère est plus chaude, et la contribution des différents réservoirs hydrauliques à l'augmentation du niveau de la mer. Alors, je zoome petit à petit et j'arrive sur la France. Alors, voilà les anomalies de température sur la France depuis le début du siècle jusqu'à 2005 ici. Et donc, toujours pareil, notre période de référence est 1960-1990. Donc, c'est des données qui sont tirées de Météo France, bien sûr. Et donc, on voit une augmentation de la température progressive qui devient très, très forte à partir des années 1980, avec des maximums ici vers les années 1930-1940. En termes de régional, je dirais, donc la tendance des températures est globale sur la France. Donc ici, sont différenciées température minimale, température maximale. Donc les températures minimales augmentent en particulier sur la face ouest de la France, avec des valeurs de 1,5 degrés par siècle sur 1900-2000. Et les températures maximales augmentent principalement sur le sud de la France, et elles sont relativement proches de la normale sur le nord de la France. En termes de précipitations, alors on a toujours des difficultés pour estimer les précipitations, hein. Donc Météo France est en train de reprocesser toute sa base de données sur les précipitations par station. Donc là, il y a certains départements qui sont grisés, c'est les départements où les relevés ont été retraités, etc. Donc chaque flèche ici représente la tendance des précipitations. Donc une flèche en bas marron représente une baisse significative des précipitations, avec la valeur qui est indiquée ici en pourcentage. Donc on voit qu'en hiver, les précipitations sont généralement sur la France, tout est vert ou vert clair, donc sont entre 5% et 10% de plus qu'en tendance positive sur le siècle. Et cette tendance est significative sur certaines régions. Par contre, en été, tout est rouge, et on a une tendance qui est vers un assèchement de l'été. Alors ces tendances, si on veut être extrêmement rigoureux, ces tendances sont faiblement significatives en été, mais elles sont quand même visibles. Je zoome un petit peu plus encore et j'arrive sur Toulouse. Toulouse, voilà l'enregistrement des températures sur Toulouse en hiver et en été. Alors je commence par l'été. Alors je m'arrête en 2002 ici. On voit une tendance avec des étés plus chauds sur la fin de la période. Et en hiver, on voit également une tendance avec des hivers plus chauds sur la fin de la période. J'ai rajouté... Ah, je voulais faire un test, vous n'avez pas vu. 2003, d'après vous, quelle est l'anomalie de température en 2003 sur Toulouse? 2003, c'est la vague de chaleur, donc l'anomalie de température, c'est la somme des minimales et maximales, c'est la somme des deux. Donc 2003, juin, juillet, août, quelle est la moyenne sur Toulouse? En fait, vous l'avez certainement vu. Donc la moyenne sur Toulouse de 2003, c'est 4,5 degrés. Alors, on voit bien que c'est un extrême, ce qu'on appelle un extrême climatique, donc il sort vraiment de la variabilité ici sur le dernier siècle. Mais ce qui est important de voir, c'est ce qui est important de comprendre, de bien se rendre compte, c'est l'ordre de grandeur. 4,5 degrés pour Toulouse. Pour la France, 3,2. Alors 3,2 degrés, je veux dire, c'est pas beaucoup. Alors 3,2 degrés, ça a des conséquences extrêmement importantes. Voilà les conséquences des différentes vagues de chaleur sur la France en 2003. Donc ici sont représentées la quantité d'humidité du sol sur la France après la vague de chaleur. En rouge ici, on est à 10% d'humidité. En bleu, on est à 100% d'humidité. Donc les sols n'avaient que 10% d'humidité après toutes les vagues de chaleur. Donc un petit 3,2 degrés sur la France donne cette conséquence. Et puis évidemment, si l'on prend en termes d'impact, en termes de sociologique, voilà ce que c'est que 3,2 degrés sur la France. C'est 14 000 décès en France, 7 000 en Espagne, etc. Et si l'on révise même les estimations en 2005, c'est 16 000 décès en France et c'est 20 000 décès en Italie. Donc, j'en déduis la même conclusion qu'hier en termes de climat. L'approche purement comptable de l'anomalie est complètement idiote. 3,2 degrés, c'est pas beaucoup en soi. Les conséquences sont énormes. Et en fait, cette approche comptable masque l'effet réel aux échelles de temps courtes, les impacts en particulier. Donc je continue à remplir mon petit tableau. Réchauffement marqué sur la France, sécheresse en été et plus de pluie en hiver. Alors là, j'ai fini ma partie observation, ma partie constat. Donc le constat, c'est que le climat du XXe siècle a été très inhabituel. Maintenant, j'ai détecté quelque chose qui est inhabituel. Donc le réchauffement de la surface observée est-il compatible avec la variabilité naturelle du système climatique? Donc la variabilité naturelle que je vous ai présentée hier, le système évolue de façon complètement naturelle. Donc ça, c'est l'hypothèse. Est-ce qu'on l'infirme et est-ce qu'on la confirme? Donc c'est ce qui s'appelle la détection. Alors pour détecter, en fait, on a recours à la modélisation pour estimer la variabilité naturelle. Alors on fait deux types de simulations. Une que l'on appelle naturelle interne, parce que c'est la variabilité naturelle que je vous ai présentée précédemment, et qui est donc une longue intégration du système climatique, du modèle climatique, avec les concentrations de gaz à effet de serre qui sont fixées à 1860, valeur pré-industrielle. On met l'insolation constante, l'insolation estimée de 1860, et on enlève tous les volcans. Donc c'est un climat non perturbé. Donc là, on estime seulement la part due aux interactions entre les différents sous-systèmes climatiques. On fait une deuxième simulation. Une deuxième simulation où l'on rajoute, en fait, le forçage solaire, donc l'évolution de l'insolation, et le forçage volcanique. Et on les compare. Alors, là, je présente la première simulation. Donc, la première simulation, c'est, j'ai pris ici trois modèles de l'IPCC, qui est donc modèle des Anglais, modèle des Américains. Et donc, c'est une intégration, c'est la variation de la température moyenne sur la planète sur 1000 ans, estimée par ces modèles-là. Donc, ils ont toutes fixes. Rien ne bouge. Donc, on voit que, ben, de manière naturelle, le climat, la température moyennée sur la planète varie entre, alors, pour ce modèle-là, entre, on va dire, moins 0,3 et plus 0,3. Pour le modèle des Américains, un petit peu moins, avec une petite tendance vers le refroidissement. Et pour ce modèle-là, il varie très très peu. Donc, ce qui vous montre bien ici, que pour différents modèles, il y a une variabilité naturelle qui est différente également. Donc là, j'ai pris les extrêmes. Le modèle du Hadley Center, donc le modèle des Anglais, c'est un modèle qui a beaucoup de variabilité naturelle. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui a peu de variabilité naturelle. C'est deux extrêmes dans les 21 modèles de l'IPCC. Voilà les observations. Les observations entre 1850 et 2000. C'est la même courbe que je vous présente depuis le début. Et ici, donc, j'ai représenté la pente. Et donc, on voit que, en fait, les observations sont totalement incompatibles avec la variabilité naturelle. Cette pente-là, elle ne se retrouve pas dans les modèles où l'on impose où tout est constant, tout est fixe. Donc, la première réponse, c'est est-ce que ce que l'on observe actuellement est compatible avec la variabilité naturelle? La réponse est non, d'après les modèles. Alors maintenant, vous allez me dire peut-être que c'est dû au forçage solaire et au forçage volcanique. On fait une deuxième intégration où on introduit ces forçages. Donc ici est représentée la température moyenne sur la planète, en noir les observations, et chaque petit spaghetti ici représente les différents modèles du GIEC, donc les 26 modèles dans ce cas-là, dans lequel on a imposé l'impact volcanique et le forçage solaire. Et donc on voit les différentes éruptions volcaniques sont représentées ici par des traits. Et donc on voit dans les observations, on voit que après, comme je vous ai montré hier, après chaque éruption volcanique, on a une petite baisse de la température, le Pinatubo ici, le Chichon, etc. Et donc on voit que les modèles sont capables de reproduire le climat sur, on va dire jusqu'à des années 1960-1970. Par contre, ils sont incapables de reproduire les observations ici sur la fin de la période. Ils sont capables de reproduire ici le réchauffement, ils sous-estiment un petit peu, mais ils sont capables de reproduire en moyenne ce réchauffement des années 1930-1940. Et si l'on regarde à quoi est attribué ce réchauffement des années 1930-1940, c'est l'activité solaire. Le soleil, une insolation plus forte des 1930-1940 est responsable de cette augmentation de la température de surface planétaire. Donc aucun modèle n'est capable de reproduire ce qui se passe sur la fin du XXe siècle. Donc, je réponds toujours à ma question, est-ce que l'observation est compatible avec la variabilité naturelle interne plus la variabilité forcée par les observations? La réponse est non. Donc, en fait, la détection qui cette approche-là nous permet de dire que le réchauffement de la surface observée sur la deuxième partie du XXe siècle est incohérent avec quelque chose qui est naturel. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que évidemment, on rajoute les gaz à effet de serre observés depuis 1960 jusqu'à 2000. Et l'on voit qu'en introduisant ces gaz à effet de serre dans les modèles climatiques sont tout à fait capables de reproduire l'augmentation ici sur la fin du XXe siècle. Donc là, on est passé à l'étape suivante qui est l'attribution. Donc par le rajout de ce forçage, on arrive à reproduire les observations par les modèles. Et on arrive à les reproduire relativement bien. Il y a vraiment une grande cohérence entre les modèles. Alors si vous regardez très bien, on surestime l'influence des volcans, etc. Mais dans son ensemble, on arrive à reproduire ce qui se passe au niveau du XXe siècle. Donc l'attribution nous permet de dire que les facteurs anthropiques fournissent une explication cohérente des changements de température de surface observés au cours du XXe siècle. Donc ici, c'est la même chose que je vous ai présentée, mais en régional. Donc je garde toujours cette approche-là qui est du global vers le régional. En bleu, vous avez les résultats des modèles pour les simulations où seulement le forçage volcanique et solaire ont été inclus. Et en rouge, rouge rosé ici, vous avez l'introduction des gaz à effet de serre. Et en noir, les observations. Donc en global, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. Si l'on fait une différence entre le continent et les océans, on voit qu'il y a également une bonne cohérence quand on inclut les gaz à effet de serre. Et voilà localement comment le système est modélisé. Et l'on voit qu'il y a cohérence locale entre les observations en noir et les simulations en rouge ayant les gaz à effet de serre. Alors on voit que sur l'Europe, en fait, la détection ne peut se faire que sur les 20 dernières années. Avant, on n'arrivait pas à différencier le forçage par les gaz à effet de serre de la variabilité naturelle. Maintenant, je zoome un petit peu et sur la France. Donc voilà quelques stations de Météo France ici qui sont les températures minimales. Et c'est donc la différence entre la dernière décennie du XXe siècle, 1990-1999, et 1961-1990 comme précédemment, notre référence. Donc on voit que sur l'ensemble de la France, sur chaque point, on a une augmentation de la température minimale. Alors ici, sur le centre de la France, c'est l'augmentation la plus forte, qui est de l'ordre de la dernière décennie du XXe siècle est 1,2-1,3 degrés plus chaude que précédemment. Et donc par les modèles, par des techniques statistiques, donc c'est une approche qui est relativement complexe, on peut déterminer le pourcentage de changement attribué aux seuls effets anthropiques sur ces observations. Et donc ici est représenté le pourcentage de changement associé aux seuls effets anthropiques. Donc vous avez une échelle de 0 à 100, et donc on voit que sur l'ensemble de la France, environ 60 à 70% du changement de la température minimale sur cette décade-là, la décade 99-2000, est attribué au changement climatique. Les seules zones ici qui sont un peu marginales, c'est les zones près de la Manche, et même si l'on regarde bien ici, c'est les zones près de l'Atlantique, en fait c'est les zones près de l'océan, où en fait l'inertie de l'océan ralentit l'ensemble du système. Et donc là, je reviens un petit peu à une tendance globale. Donc ici, c'est le nombre de jours froids sur l'ensemble de la planète. Et donc on voit que ce nombre de jours froids diminue fortement, de nuits froides diminue fortement sur l'ensemble de la planète. Et par opposition, évidemment, le nombre de nuits chaudes augmente fortement sur l'ensemble de la planète. Et l'accélération se fait toujours au même endroit. C'est milieu des années 70, début des années 80. Là, je vais peut-être passer. Donc là j'ai fini de détecter, d'attribuer, et là je vais passer très rapidement. Donc c'est sur la physique du système. En fait tout ce que l'on note en termes d'évolution globale dans l'atmosphère, que ce soit en surface de l'atmosphère, en basse atmosphère, au milieu de l'atmosphère ou en très haute atmosphère, on voit une cohérence en fait entre la physique due au changement des gaz à effet de serre et l'observation. Donc en basse atmosphère on a un réchauffement bien sûr. Et en très haute atmosphère, dans la stratosphère, on a un refroidissement de la stratosphère, qui est tout à fait cohérent avec la physique que l'on connaît de la chimie atmosphérique. Donc je continue à remplir mon petit schéma. Pouvons-nous détecter un changement atypique ? La réponse est oui, parce qu'il y a en fait il y a une incohérence entre la variabilité naturelle interne et forcée. Donc le signal observé sort du bruit climatique. Le bruit climatique, c'est ce que je vous avais présenté hier, c'est la variabilité naturelle. Donc ce qui est observé sort de ce bruit-là. Et pouvons-nous détecter son origine ? La réponse est oui. Donc le forçage anthropique est combiné aux effets au forçage naturel, explique en grande partie l'évolution de la température globale, et sur la France, environ 70% des températures de l'augmentation est due au changement anthropique. Alors pour conclure, je dirais que le changement climatique donc est une réalité. Il se détecte, il s'explique et il se comprend. Et il est attribué aux effets anthropiques. Donc ça, c'est la démarche scientifique que j'imagine vous faites aussi avec vos élèves. On fait une observation, une hypothèse, on l'infirme, on la confirme, on l'attribue. C'est exactement la même chose. Le GIEC a suivi exactement la même démarche. Et le GIEC n'a rien imposé. Hein. C'est les scientifiques qui donnent. Ça, c'est pour répondre à certains détracteurs du changement climatique, comme quoi le GIEC est manipulé, etc. Donc le GIEC n'a pas fait les modèles. Le GIEC est une banque de données. Il a récupéré une banque de données. On s'est tous mis autour d'une, les 1200 scientifiques se sont mis autour d'une grande table, je dirais, et puis ont apporté leurs conclusions, et voilà, c'est tout. Donc le changement climatique est une réalité. Le changement climatique est extrêmement rapide à l'échelle de la planète. Alors ça, c'est l'état de l'art. On peut dire qu'il est sans précédent depuis 1 million d'années, d'après les reconstitutions. C'est avec le mieux qu'on peut faire, bien sûr. Donc il est intéressant de comprendre le contraste entre la petitesse de la perturbation, c'est 1% en termes de bilan radiatif, et son impact. Ce qui montre que le climat est un équilibre extrêmement fragile et précaire, et que la valeur de la perturbation en elle-même n'a pas de sens prise de manière isolée. Donc le changement moyen, quand on dit que la température se réchauffe de 0,6 degrés par siècle sur la planète, est seulement informatif. Mais il ne suffit pas. Donc il faut regarder l'ensemble de ce qu'on appelle la densité de probabilité de la fonction de densité de probabilité, c'est la modification des extrêmes, c'est la modification de l'ensemble des paramètres du système climatique qui localement peuvent être extrêmement fortes. Donc ça, vous aurez des exposés là-dessus cet après-midi. Et donc en fait, nous, on peut même dire que nous jouons avec le feu et nous sommes en train d'amorcer une véritable bombe à retardement parce que ce qu'on fait maintenant, en fait, 200 ans plus tard, il y aura encore un impact et une amplification. Donc tout cette démarche scientifique sur laquelle j'ai bien insisté, le constat, la physique, la détection et l'attribution, ont permis au GIEC d'avoir ces deux phrases de conclusion qui sont extrêmement fortes, GIEC 2007, qui est donc le réchauffement climatique est sans équivoque et l'essentiel est attribué à l'origine humaine. Ce qui aboutit ensuite donc à la proposition de scénario et aux projections climatiques, donc vous aurez les exposés un peu plus tard dans l'après-midi. Voilà.